Bazuca.
De l'autre côté du Charco, une émission inspirée du livre du même nom.
Arras de la noche rala, casanga del triste día.
Et voilà, on est reparti. Bienvenue dans Djiboutique, reparti donc pour un voyage au Mexique. Deuxième volet de cette émission qui est inspirée du livre de l'autre côté du Charco. Et donc, si vous voulez retrouver le premier épisode, eh bien, cherchez sur online, vous le retrouverez. Comme ça, vous aurez la première partie où on a traversé eh bien, notamment l'état du Guerrero depuis sa capitale. Mais par la suite, on est allé vers la côte. Avec les Cimarrones de la Costa Chica, et puis petit à petit vers l'état de Oaxaca, et puis même on est arrivé à cet endroit un petit peu particulier qui ne constitue pas vraiment un état, mais que les auteurs du livre ont décidé d'en faire une partie en soi, puisque c'est l'isthme de Tehuantepec. Et c'est vrai qu'on a cette ville de Juchitán, qui est une ville très importante, puisqu'il y a beaucoup d'aspects culturels très forts. Déjà, l'état de Oaxaca, il faut bien le dire, c'est un état au Mexique qui est impressionnant, déjà, juste par ses costumes. C'est un truc de fou, hein, au niveau touristique. Voilà, c'est un état bien situé en plus, puisque c'est pas très loin de Mexico. Donc, c'est vraiment Oaxaca qui s'est développé en premier comme état en dehors de la grande ville de Mexico. L'état de Oaxaca, ça a été le boom au niveau tourisme. Même si, bon, la plaque tournante, c'est Acapulco, mais ça, c'est dans le Guerrero. Mais ça, c'est pour le tourisme de plage. Mais au niveau tourisme culturel, c'est Oaxaca. Et donc, l'isthme, c'est un endroit très important au niveau culturel qui est rattaché à Oaxaca. Et donc, en fait... Eh bien, ici, on va être amené avec le voyage à passer un moment à Juchitán de Zaragoza, donc cette ville où on a différentes traditions. Et parmi elles, eh bien, une tradition qui donne aux hommes, en fait, un rôle assez important. Les femmes ont de toute façon un rôle très important dans ces traditions-là. On est chez les Zapotèques, donc, au niveau préhispanique, hein, comme culture à identifier, c'est les Zapotèques. Les femmes ont un rôle très important. Et il y a aussi des hommes qui vont avoir un rôle un petit peu particulier.
Et Maric, je me permets de t'interrompre juste pour quand même nommer les auteurs du livre. Vero Traba et Pachi Belchaïs.
Belchaïs.
Voilà, Belchaïs. Tu le dis mieux que moi. Qui ont donc à la fois écrit plusieurs textes qu'ils ont donc réunis ici, qui étaient destinés à la base pour un blog, c'est ça, et qui ont... ajouter donc beaucoup de photos très très fortes qui prennent au moins la moitié du livre, si ce n'est que deux tiers. Et donc dans cette émission, on propose de parcourir un petit peu ce livre et du coup allant parcourir le sud du Mexique. Donc voilà, juste pour ajouter un petit...
Tout à fait, et tu fais bien parce qu'en fait, ils ont fait ce blog au moment où ils étaient au Mexique. Donc c'était une manière, comme il l'a dit dans la première partie, de se relier à leurs amis qui connaissaient le Mexique et d'autres qui ne connaissaient pas, qui étaient basés principalement à Marseille. Et donc, c'était un peu un lien de leur voyage, une manière de raconter leurs expériences et que leurs amis d'Europe soient au courant de ce qu'ils faisaient. Et par la suite, ils ont décidé d'en faire un livre. Et maintenant, ils sont rentrés en France et ils ont produit le livre en France.
Voilà. Voilà. Ce qui, maintenant, tu parles de France, mais on revient au Mexique.
Mais on revient au Mexique, exactement. Donc, cet état, enfin, sur les marges de l'état de Oaxaca et cette ville de Juchitán, où on va donc vous passer une première lecture.
La foule suit joyeusement de la musique, des caisses de bière, un soleil accablant. L'ombre est prise d'assaut. De leurs chars, femmes et enfants jettent des bols, des assiettes, des bassines en plastique coloré. Les femmes arborent des passoires, des tasses, des Tupperware. Étrange rituel. Avant, ils jetaient des fleurs et des fruits de saison. Puis le monde moderne est passé par là. Deuxième surprise. Sur le dernier char, des femmes fières, le regard bien en avant, qui sont en fait des hommes. Aucun colubet sur leur passage. Pas d'insulte. Ce sont les mouches. Sofia nous explique que ce terme dérive phonétiquement de l'espagnol « mujer », femme, et a été utilisé dès le XVIIe siècle pour désigner des personnes nées de sexe masculin, mais qui assument un rôle féminin dans la société, à la manière des travestis. Transgenre ou transsexuel d'Occident. Les apothèques considèrent les mouches comme un troisième sexe, ni meilleur, ni pire que les hommes ou les femmes. Différent.
Un premier extrait donc qui nous amène dans l'isthme de Tehuantepec, donc cet endroit qui se trouve vraiment à la frontière entre l'état de Oaxaca et du Chiapas, et qui est un endroit aussi assez fin au niveau géographique, et où en réalité il y a énormément de vent, puisqu'on est entre deux océans, le golfe du Mexique d'un côté, le Pacifique de l'autre, et d'ailleurs ils en parlent dans le livre, hein, puisque c'est là que des grosses sociétés comme Elf ont décidé de construire des éoliennes. Et donc on a un champ d'éoliennes à perte de vue. Et évidemment, bon, ça pose certaines questions. Il y a d'ailleurs un film et un livre qui ont été écrits à ce sujet. Mais voilà, on ne va pas développer ça maintenant. On continue donc avec les mouches et un autre extrait qui est lu de ce livre de l'autre côté du Charco.
Cette fierté homosexuelle trouve son paroxysme lors de la fête des authentiques et intrépides chercheuses de danger qui a lieu chaque année en novembre. Plus de 5000 personnes s'y pressent avec enthousiasme. Pour les mouches, c'est la fête du paraître. Les huipiles brodées sont de toute beauté. Les plus jeunes sont en robe du soir. Il règne un petit air de festival de Cannes ou de bal de débutantes. Les mouches jouent et rejouent l'éternel féminin. Talons hauts, jupes courtes, sourire flamboyant. Elles s'éclatent jusqu'au bout de la nuit. La veille, comme toute fête, a sa fonction expiatoire. Ce soir-là, pas d'homophobie, pas de propos déplacés, pas de petites misères quotidiennes. Elles sont les reines, pour un soir, pour une semaine. La ville leur appartient. Guincher pour oublier la laideur du monde. Devenir une princesse, une femme fatale, celle de leurs rêves d'adolescent. Le lendemain, on déjeune au restaurant avec un ami. L'atmosphère est à la plaisanterie et la musique des mariachi nous donnerait envie de nous installer là pour la vie. Soudain, une jeune mouche surgit en pleurs et se jette dans les bras de notre ami. Son ami Yvonne a disparu depuis la veille. Le pire est à craindre. Deux jours plus tard, son corps sans vie est retrouvé dans une rivière. Elle aurait été torturée et violée. D'avoir voulu être femme, d'avoir osé être mouché, d'avoir renié sa sacro-sainte virilité. Mes questions restent sans réponse. J'en pleurerai de rage, et cette trompette qui explose dans l'air ne peut pas dire mieux que moi toute mon impuissance. Je laisse la musique m'emporter loin de ce monde de brutes.
Un deuxième extrait donc du livre De l'autre côté du Charco pour cette émission Djiboutique. Alors, une des photos du livre montre un homme en train de danser. Il s'agit d'un mouchet, et qui a pour nom Luca Avendaño. Eh bien, Luca Avendaño, c'est quelqu'un que les auteurs du livre ont rencontré. Et la photo dont je parle, en fait, il danse dans un festival au Chiapas, un festival organisé par les zapatistes. On y reviendra un petit peu plus tard, mais je vous laisse écouter ce que Pachi m'a raconté à propos de l'intérêt de parler de et avec Luca Avendaño.
Son frère a disparu. C'est parti des disparus. Aujourd'hui, le corps a été retrouvé, mais à ce moment-là, son frère faisait encore partie des nombreux disparus. Et quand il danse donc au Chiapas, c'est aussi c'est une danse performance, on va dire, sur la question des disparus. C'est un moment qui nous avait hyper touché, quoi. Enfin, on trouvait que c'était quand même il y avait quelque chose de poignant dans la façon dont aussi il a abordé cette question. Hyper grave, hyper trash quand même. Et puis en vrai, on en avait déjà entendu parler de la disparition de son frère, parce que Lucas, il est de l'Istmo-Tehuantepec, il est mouché, mais il a quand même une petite notoriété, on va dire, je sais pas comment dire. C'est pas un inconnu complètement, quoi. Et donc, du coup, quand son frère a disparu, c'est une info qui circulait un petit peu comme ça, en tout cas, dont on avait entendu parler. Et donc, quand on l'a vu danser au Chiapas, voilà, ça nous avait assez touché, quoi, ce qu'il avait fait, ce qui s'était passé. On se dit, putain, ce serait chouette un jour qu'on puisse peut-être en discuter avec lui, mais pas que sur la question des disparus, mais aussi sur la question des mouchés, qui est un peu... Peut parfois être porté là, je sais pas, un truc un peu mythique là dans cette partie de Oaxaca.
Voilà donc Pachi Beltzaïs au micro de Djiboutique. Et donc, il parle ici de Luca Avendaño, dont le frère, en fait, qui faisait partie d'un corps étatique, à savoir la police, eh bien, il a lui-même disparu. Donc, on vous parlait de cette violence au Guerrero. C'est vrai que l'État de Oaxaca n'en est pas épargné, en tout cas, dans ce qui est décrit à travers ce livre. Et donc, je vous propose d'écouter encore un petit extrait qui parle justement de ce qui s'est passé et comment Luca a vécu finalement la disparition de son frère Bruno.
Invité à Barcelone par un festival, Lucas part danser sa peine. Il élabore une performance au consulat du Mexique, Buscando a Bruno, inspiré du tableau Les deux Frida de Frida Kahlo. Un acte de désespoir autant que de dénonciation. Lucas est conscient que la pression internationale est sa meilleure carte. L'opinion d'un blanc pèse toujours plus lourd dans la balance. Nous n'en avons toujours pas fini avec ce colonialisme des institutions. Ses mains semblent vouloir gifler l'air. Le dossier est ensuite transféré à Ciudad de México dans une unité dédiée aux disparitions forcées. Lucas dénonce avec violence. Je ne viens pas d'une famille riche, je n'ai pas de relations puissantes, je ne connais personne au gouvernement. Je suis indigène et homosexuel, je n'ai rien pour moi. Et eux se disent, mais c'est qui cette folle qui vient crier après moi? Moi je m'en fous, je continue, et je continuerai jusqu'à ce que Bruno réapparaisse. Lucas bataille pour son frère, mais aussi pour tous ceux qui n'osent pas affronter l'impitoyable machine institutionnelle. Les paysans, les analphabètes, tous ceux qui portent leurs disparus comme un spectre à l'intérieur d'eux-mêmes.
Voilà, deuxième extrait, un extrait donc par rapport à cette histoire qu'a vécu Luca Avendaño. Le corps a finalement été retrouvé, évidemment, suite à son combat et à de nombreux jours d'attente, d'impatience et, je le répète, d'attente. Voilà donc ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé dans la vie de cet endroit. Donc on est dans l'isthme de Tehuantepec. Alors je pense que on va faire une pause musicale, on pioche dans notre discothèque.
Alors c'est un coup de cœur de cette année-ci, 2022, une chanteuse mexicaine, je ne me rappelle pas de quelle région elle est, qui fait état de, je dirais, de l'évolution de l'expression féminine dans la musique mexicaine, où là c'est vraiment une chanson toute, enfin c'est une chanteuse toute en douceur, toute en nuance, ce qui n'est pas évident au Mexique, hein, parce que c'est souvent des musiques assez, assez pesantes. Ici c'est vraiment, on est dans la nuance. Elle s'appelle Silvana Estrada et je vous conseille son album Marchita. On écoute d'ailleurs la plage titulaire.
Qué inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado tanto y tanto que ya mi alma se marchita y se deshacen lagrimitas que se olvidaron de rezar. Y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco, hubiera sido más prudente al entregarte el corazón. Y si yo hubiera sabido escrito esta canción, poco a poco voy perdiendo la claridad de tu retrato, pero no olvido ni un segundo el dulce tacto de tu.
De l'autre côté du charco, une émission inspirée du livre du même nom.
Arras de la noche rala, casanga del triste día.
Et donc voilà, après cet extrait de Silvana Estrada, qui, c'est vrai, je le confirme, hein, peut bien faire partie de cette constellation, de cette appellation canción latino-américaine, hein, au niveau de sa voix, de l'émotion. Stéphanie, tu confirmes ?
C'est vraiment très très joli, oui.
Alors, on continue donc notre pérégrination. On va vers l'est et on est encore dans l'isthme de Tehuantepec. On vous a déjà parlé de Juchitán de Zaragoza, la question des Muches et Luca Avendaño. Eh bien, les auteurs du livre de l'autre côté du Charco s'arrêtent dans un village qui s'appelle Unión Hidalgo, où ils ont été marqués par un certain phénomène, je dirais.
Oui, en fait, ce sont des fresques murales. Et avant de parler des fresques de l'Union Hidalgo, j'aimerais faire une toute petite parenthèse par rapport aux fresques qu'on trouve au Mexique. Puisqu'en fait, un peu partout dans le pays, c'est une pratique répandue que de peindre sur le mur toutes sortes de choses, mais souvent, évidemment, inspirées par un mouvement politique, voire révolutionnaire.
Évidemment, on pense à Diego Rivera et voilà, ses liens avec le communisme, Trotsky qui est allé au Mexique hein, aussi.
Oui, tout à fait. Et donc, à titre d'exemple, en 2013, à Oaxaca.
Bien joué.
Je ne parle pas l'espagnol. a été créée l'Union révolutionnaire des travailleurs de l'art, Urtarte. Mais ce n'est qu'un exemple parmi peut-être des centaines d'associations. Et en tout cas, au sein de cette association-là, ils font de la gravure sur bois. Et la toute petite citation que je vais lire s'applique également aux fresques murales. Et c'est pour ça que je vais la lire. Donc, c'est Mario Guzman qui a fondé l'Urtarte, que je viens de présenter, et dit « La gravure sur bois ». Et donc, j'ajoute les fresques murales, ont une portée populaire parce que la majeure partie de la population est analphabète. Grâce à l'image, nous pouvons traduire nos idées politiques, retranscrire un sentiment social. Je vois que cette pratique des fresques murales un peu généralisée au Mexique a trouvé une forme très spécifique dans ce village qui s'appelle Unión Hidalgo. En fait, c'est grâce au collectif Binicubi, qui existe depuis 2002, qu'on y trouve des fresques murales avec des visages qui ne représentent pas, comme on en trouve apparemment souvent, sous-commandant Marcos ou d'autres personnages illustres, mais des visages de personnes tout à fait banales, des gens du village, en fait, qui ont, de par leur travail, ajouté à ce que la vie au village puisse prendre son chemin. Et donc, avant de se lancer dans ces fresques murales, le collectif Binicubi a créé une radio dans l'idée de sauvegarder une oralité. Et donc, le slogan était un petit peu « Nos grands-parents sans nos racines ». Et ils ont décidé d'en parler dans des émissions depuis 2002, jusqu'à passer à la fresque murale en 2011. Et en tout, ils ont créé 11 grandes fresques dans leur village, donc avec des personnes âgées de la communauté, avec des anonymes aussi. Ces gens de la communauté du village qui étaient des anonymes, pas pour les villageois bien sûr, mais pour tout le reste du monde. Et donc, ce sont des gens qui n'ont jamais droit aux honneurs et qui, dans ce cas, à qui on rend hommage. Ça peut être une vendeuse de tortillas, ça peut être un paysan. Ces visages et ces noms aussi, puisque on voit à chaque fois apparaître sur l'image le nom de ces gens, se trouvent désormais sur un mur. Alors, j'aimerais vous lire un extrait où on suit un certain Émig Dio, qui a 18 ans, et qui nous présente les deux dernières fresques de ces 11 fresques qui restent. Parce que lors des tremblements de terre en 2017, il y a eu énormément de dégâts. D'ailleurs, sur nombreuses photos du livre, on voit les... toujours hein, les traces de ces tremblements très très violents. Et malheureusement, donc, le gros de ces fresques a été détruit également, mais il en reste deux. Et donc, les auteurs nous amènent avec Emilio voir ces deux fresques. Et comme c'est un joli passage, je voulais vous le lire. Donc, sous une douce lumière d'après-midi, Tacente Doi nous observe. C'est le grand-père de Emigdio. Ce mural a été réalisé de son vivant quand il avait 102 ans. Il est mort 3 ans plus tard. Il a passé une partie de sa vie à travailler pour les chemins de fer, à ses airs perdus. Il était guérisseur. Emigdio, donc son petit-fils, est volubile. Ses mains volettent dans le vide. On sent son amour et sa fierté, non seulement d'un petit-fils envers son grand-père, mais d'un jeune indigène face à une mémoire vivante. Aujourd'hui, il le croise presque tous les jours comme s'il n'était pas mort. Ensuite, Emigdio amène les auteurs un peu plus loin et je poursuis donc la citation. « Presque sans un bruit, une minuscule bonne femme surgit de l'ombre. Elle a les cheveux blancs et les yeux perçants de celle qui voit au-delà des corps. Na Gugelia, 84 ans, toute frêle, s'assied sous un arbre à peine plus vieux qu'elle. À propos de ce mural, elle se dit enchantée. Mais on sent bien que les honneurs lui importent peu. Elle, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chaque matin jusqu'aux voies du chemin de fer et de marcher, toujours marcher. Parfois, au détour d'une balade, elle tombe sur son propre visage. Personne ne sait vraiment ce qu'elle se raconte. » Et cela fait donc écho aux images, à deux images dans le livre qui sont juxtaposées. Il y a un très beau portrait photographique de cette vieille dame. Et en face, il y a la fresque qui est très très proche de la photo. Et là aussi, on a presque l'impression que les deux images dialoguent.
Ouais. C'est vrai que ça t'avait interpellé, en tout cas, dès le départ, ces photos-là, je pense, les visages.
Oui, ça me plaisait beaucoup que c'était les héros du quotidien qui étaient mis en honneur.
C'est ça. Alors, donc on va petit à petit vers le Chiapas. Alors, d'autres photos de cette communauté Unión Hidalgo nous rappellent, comme tu l'as aussi dit, qu'en 2017, il y a eu un tremblement de terre dans la région. En fait, pour être vraiment juste, il y en a eu deux, pratiquement à une vingtaine de jours d'affilée. Le premier a eu lieu donc dans cette région-là, de l'isthme de Tehuantepec, et le deuxième, près de Puebla, et le deuxième a fait encore plus de dégâts quelque part. Hein. Mais donc, c'est vrai que dans l'isthme de Tehuantepec, on le voit sur les photos, des maisons ont été détruites, un mur complet qui s'est effondré dans une des photos. Sur une autre photo, on voit une espèce de petite tourelle qui, en ciment, hein, avec des briques, qui appartient à une maison et qui, elle a été cassée en deux pratiquement et le dessus de la tourelle se trouve par terre, renversé. Donc voilà, c'est quelque chose qui est illustré dans le livre. Et c'est vrai que moi, j'étais au Chiapas à ce moment-là et en réalité, le Chiapas a été aussi affecté. La même partie du Chiapas, donc qui touche l'état de Oaxaca et l'isthme de Tehuantepec, et notamment Paredón, qui est un village de pêcheurs où on a dit qu'il y avait énormément de dégâts. Il y a des gens à Saint-Christobal qui se sont mobilisés pour envoyer des vivres et les aider. Et en fait, l'épicentre de ce tremblement-là était dans la mer. Donc c'était dans la mer, à une distance égale, je dirais, de cette partie du Chiapas qui touche Oaxaca et de Juchitán de Zaragoza, dont on a déjà parlé. Et donc, on se retrouve au Chiapas, ma chère Stéphanie.
Enfin, c'est là où tu habites, Émeric, n'est-ce pas ? La moitié de l'année.
C'est ça, on va dire ça. Et donc, au Chiapas, évidemment, Pachi l'a souligné, un intérêt des auteurs du livre, c'était le mouvement zapatiste. Comment est-ce qu'ils s'organisent ? Comment est-ce qu'eux aussi ont pu les aider, quelque part, par leur présence, à différentes circonstances ? Je fais juste un petit rappel du mouvement zapatiste, puisqu'ils étaient de passage ici début de l'hiver. Et c'est vrai que dans le livre, tout comme pour la situation du massacre d'Ayotzinapa, on a ici, par rapport aux zapatistes, un petit récapitulatif, des dates. On nous met en un petit contexte historique, ce qui est quand même pas mal, puisque le voyage, comme on l'a déjà dit, c'est notamment des découvertes et des choses comme ça, mais parfois aussi des moments historiques assez précis qui sont traités de manière un petit peu détaillée, on va dire. Hein. Et donc, par rapport aux apatismes, souligner donc la date de 1994, moment où on parle de ce soulèvement zapatiste. Alors, de quoi est composé ce mouvement, qui est considéré comme un mouvement révolutionnaire, un des derniers, mais un mouvement aussi assez moderne? Il est composé notamment de gens qui sont des intellectuels de gauche, qui ont participé à des guérillas dans les années 60, et dont fait partie le commandant Marcos. Alors, une autre branche du zapatisme, ce sont les paysans, puisque au Chiapas, évidemment, il y en avait énormément. Hein. Et la troisième branche, c'est l'Église catholique qui, grâce au père Samuel, et dans les années déjà fin 90, développe un travail un petit peu inspiré de la théologie de la libération dans les campagnes, où ils essayent d'éduquer les gens des villages et de les conscientiser et de les faire prendre conscience de l'exploitation dont ils sont victimes, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, c'est ça qui compose le zapatisme, ces trois courants-là, on va dire. Alors au niveau des dates, j'ai déjà cité 94. 96, on a les accords de San Andrés où les zapatistes font signer au gouvernement une série de points qui exigent une reconnaissance officielle des cultures indigènes et leur respect. Alors en 2003, vu qu'ils constatent qu'il y a eu une rupture, puisqu'il y a eu entre-temps le massacre d'Acteal, rupture par le gouvernement de ces accords de San Andrés, les apatistes se retranchent dans des endroits qu'ils vont appeler les caracoles, ça veut dire les escargots, et ce sont des zones où ils vont essayer de développer leur propre société de manière autonome. Okay. Alors, après, on peut citer comme date, et le livre la cite, 2012, 40 000 apatistes prennent des villes de manière symbolique, c'est-à-dire qu'ils arrivent à cheval ou à pied et ils défilent, cagoulés évidemment, pour montrer qu'ils sont toujours là. Et puis, tout récemment, dernières élections, où on a élu López Obrador, les apatistes, finalement, qui, comme j'essaie de le décrire, sont toujours un petit peu à cheval sur la politique officielle. En tout cas, ils essayent de s'y raccrocher d'une manière ou d'une autre, même si des fois, ils sont dégoûtés et donc ils se retranchent, ils y reviennent. Avec, notamment, aux dernières élections, la candidature donc de Mari Chuy, qui était donc leur candidate, entre guillemets. Pour représenter les indigènes. Voilà. Alors aussi, ils ont pris position, évidemment, contre ce projet de train Maya qui concerne toute la péninsule du Yucatan. Voilà un petit résumé, donc. On commence cette partie sur le Chiapas avec une photo qui concerne les apatistes, non ? Puisque les parties géographiques sont à chaque fois illustrées par une photo qui n'a pas de commentaire. Il n'y a pas de détails, on ne sait pas où ça a été pris précisément, mais bon, on imagine que c'est dans un de ces caracoles, un de ces escargots, un de ces lieux autonomes apatistes.
Voilà, et sur cette photo, on voit donc une dizaine de femmes en costume, très colorées, c'est le rouge qui est la couleur la plus présente, et elles regardent toutes dans une direction. Il y en a une, celle qui est centrale à l'image, qui montre avec son doigt quelque chose qui est loin. Et derrière elle, il y a une foule de personnes, mais on ne les voit pas, ces personnes-là sont floues. Et là, il y a quand même une centaine de personnes. Il s'agit très vraisemblablement d'une fête, un moment festif.
Oui, sûrement.
Mais la particularité de cette image, pour moi, consiste dans le fait que ces femmes sont non seulement costumées comme on s'y attend, mais elles ont aussi la cagoule des apatistes. Donc, c'est un petit peu le contraste.
Le contraste.
Et alors... Moi, j'ai trouvé une petite phrase du sous-commandant Marcos qui dit quelque chose sur ces cagoules, mais peut-être tu pourras après aussi encore un petit peu plus expliquer. En tout cas, lui, il a dit « Les Indiens étaient invisibles, inexistants. Paradoxalement, c'est en masquant nos visages qu'on nous a vus et que nous sommes devenus visibles. » Alors, est-ce que, Émeric, tu en sais un peu plus de ce signe très... très fort, et est-ce que c'est par nécessité à la base et que c'est devenu plutôt un symbole d'une lutte ou...
Écoute, oui, je dirais ça un petit peu comme ça, c'est devenu, comme tu l'as dit, il faut savoir que le mouvement zapatiste, quand même, a aussi, dès le départ, essayé de travailler avec les médias et de communiquer. Et donc, relayer des symboles, en tout cas, c'est quelque chose qui était important, je pense. Et comme tu dis, d'abord une nécessité, mais devenu symbole. Moi, je le dirais comme ça, comme tu l'as dit. C'est exactement ça.
Et quand on vit au Mexique, alors on en voit souvent dans la vie quotidienne ou...
on les voit plutôt quand on va dans les caracoles, bien que, en général, ils les mettent plutôt pour des moments où ils vont ouvrir la communauté à des visites extérieures, des moments de fête ou des choses comme ça. Donc c'est un peu aussi une sorte de démonstration en même temps. Ils le mettent pour cette occasion-là. Maintenant, ça n'a peut-être plus l'utilité que ça a eu un moment. Mm-hmm. Je dirais ça comme ça. Mais c'est vrai que cette photo est assez interpellante parce que c'est aussi une des caractéristiques des apatides, c'est que c'est un mouvement révolutionnaire, mais où la culture est très présente. Je pense qu'on y reviendra. Alors, un premier extrait, donc, on a échangé avec Pachi Beltzaïs, un des auteurs, autour de la question d'un endroit où les apatistes sont entrés en conflit avec l'État, notamment pour des questions de terre, et un endroit où il y a un plan d'eau qui par la suite, a été exploité comme une zone touristique. On écoute donc ce petit extrait de Pachi Beltzaïs.
Donc, en fait, nous, on s'est trouvé là, à ce moment-là. À ce moment-là, je pense que côté pro-sapatiste, il y avait aussi la volonté, parce qu'ils avaient quand même coupé la route Palenque-San Cristóbal, qui est une des principales routes touristiques. Ils ont dû, par exemple, lever ce barrage-là, parce qu'à un moment donné, ça devenait trop compliqué de le tenir, quoi. Enfin, trop dangereux, en fait. Ils avaient gardé encore la route qui descend aux cascades, quoi. Ils avaient même construit une cabane avant qu'on reparte, une construction qui aurait pu être un peu comme le centre de convergence pour les différentes personnes qui veulent venir un peu soutenir sur cet endroit-là. La cabane, elle a été attaquée, je sais plus, quelques mois après, détruite, brûlée. Donc et là le passage, à ma connaissance, alors aujourd'hui je sais pas, parce qu'après ça peut changer aussi, ça peut changer régulièrement en fonction des forces en présence, mais la dernière fois qu'on y est passé, effectivement, les adhérents à Sexta n'avaient plus du tout la main sur le passage sur les cascades, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais ils auraient très
perdu le terrain, quoi, on va dire.
Bah oui, c'est ça, en fait. Ils auraient pu très bien le garder, mais même si de ce côté-là du débat, là, c'est un peu compliqué, mais tout ce qui est tourisme, il y a souvent des gros projets, mais pas seulement. Ici, à Guasul, c'est quand même pas un truc énorme, on va dire. Et finalement, qu'ils décident, eux, les apatistes, de prélever leur dîme là-dessus, c'est bien légitime. Et au fond, pourquoi pas? Ça leur fait une entrée en plus, quoi. Enfin,
oui, et puis c'était aussi une façon, je pense, de... à la fois de rentrer de l'argent pour eux, hein, ça c'est sûr, mais il y avait aussi le côté où c'est nous qui décidons sur nos terres héritales, en fait.
Évidemment.
Et ça, c'est sûr que sur le gros projet touristique qu'il y a sur l'exploitation de la Guasul, c'est comme il y a partout, hein, c'est les grosses chaînes hôtelières qui vont arriver, qui vont se créer des grands hôtels, le balnéario, et puis les gens de les rideaux. Au mieux, ils auront des emplois pour nettoyer dans les chambres, quoi. Et côté adhérent à la Sexta, je crois qu'il y avait ça aussi, de dire, en fait, les rideaux, c'est la terre qui nous nourrit, c'est nous qui en avons l'usage et le droit d'usage, et donc c'est à nous de décider ce qu'on peut y faire ou pas.
Voilà un autre extrait donc de Pachi Beltzaïs. Alors, on va enchaîner avec une petite pause musicale.
No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, a mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay, de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Y cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mí, llorona, llorona, llorona del campo lirio. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona del campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante.
Alors, on est avec un tout grand classique de la musique mexicaine, La Llorona, chanté par Natalia Lafourcade, c'est la fille d'un musicien classique de Mexico. Elle a sorti deux CD où elle reprend tout le patrimoine de la musique mexicaine, un peu de toutes les régions, et elle arrange toutes ses chansons avec sa voix incroyable et avec des instrumentations et des arrangements un peu plus contemporains. Ce qui est important comme passage par rapport à l'imaginaire qu'on peut avoir du Mexique, parce que le Mexique, c'est souvent des chansons pleines de pathos, avec des émotions extrêmement fortes. On a l'impression que c'est un peu un pays de carton-pâte, tellement l'émotion est cadrée dans des instrumentations et une manière de chanter tellement excessive que ça ne peut pas être vrai. Alors ici, on arrive enfin avec dans les années 2000 avec des chanteurs et des chanteuses qui expriment leurs émotions sans filtre Et donc, on arrive à percevoir quelque chose de plus profond dans l'âme mexicaine par rapport à ces musiques. Voilà donc ce commentaire donc sur La Llorona de Natalia Lafourcade. Je vous laisse continuer.
Alors, je suis vraiment ensorcelée par cette musique. Je la trouve magnifique. Merci de nous l'avoir passée. Et j'en viens à un extrait du livre qui m'a beaucoup intéressée, voire touchée, par rapport aux apatistes, parce que je trouve que ce sont des aspects qui peuvent nous intéresser, qui devraient tous nous intéresser ici dans notre société, de ce côté donc du charcot. je vais vous lire cet extrait. Donc je rappelle, les textes ont été écrits par Véro Traba dans le livre De l'autre côté du charcot. Donc un extrait sur les apatistes et sur leur manière de voir le monde. L'individu n'existe que dans les tâches qu'il réalise au service de sa communauté, comme si l'ego se dégonflait au contact de missions bien plus grandes, c'est-à-dire protéger la terre-mère, préserver les langues originelles, perpétuer les traditions ancestrales, afin d'assurer aux générations futures un héritage digne de ce nom. Cette posture impose l'humilité dans un mouvement sans expert, sans solution toute faite. L'originalité de ce mouvement armé, qui a renoncé aux armes, tient aussi à la force poétique de son discours, porté le plus souvent par le sous-commandant Marcos. Dans ses communiqués, l'humour est omniprésent. Le second degré émerge à chaque phrase, la poésie affleure sans altérer la force de la dénonciation. Et voilà, ça me fait aussi un petit peu penser à notre première émission qui passait il y a une semaine, qu'on a commencé par un poète, Jonathan Ruiz, qui habite donc dans cette banlieue de Mixcoyotl. C'est ça. Et dont Émeric avait lu un poème érotique. Et voilà, la poésie omniprésente au Mexique, qu'on retrouve aussi au sein même de la Révolution. Voilà. Je te passe la parole, Émeric.
Ok, alors, encore un petit mot donc, sur la fin du livre. On s'approche petit à petit de la fin de l'émission. Mentionner que le volet après le Chiapas, un volet qui s'intéresse aux femmes, la place des femmes au Mexique, leur lutte. Alors, il faut savoir que le mot féminicide a émergé au Mexique. Et que l'auteur mentionne aussi le mot de sororité, quelque chose qu'elle a découvert aussi au Mexique, sororité, espèce de communion, de proximité entre femmes, quelque chose qu'elle a ressenti de manière très très forte au Mexique durant de nombreux événements et manifestations. Alors, dire aussi donc que le livre dont on vous a parlé aujourd'hui et la semaine dernière, donc De l'autre côté du charco, il est disponible à Radio Panique pour les membres. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à passer ici et à le feuilleter, jeter un petit coup d'œil. Voilà donc. On va écouter un dernier extrait de Pachi Beltzaiz qu'on a interviewé par téléphone, puisqu'il se trouve dans le sud de la France, du côté de Bayonne. On se quittera. Voilà. On écoute. Oui, Stéphanie.
Oui, juste peut-être ajouter que s'il y a des personnes intéressées qui veulent plus que juste feuilleter ou jeter un coup d'œil, ils ont la possibilité de commander le livre chez les auteurs eux-mêmes, parce que c'est quand même une autoproduction. C'est important de le dire, je
Évidemment.
Trouve. Et donc, c'est d'autant plus bienvenu si des livres sont commandés. Donc, pour faire cela...
On vous laissera l'adresse.
Voilà.
Ok. Et donc, le dernier petit son de cette rencontre, de cet échange avec Pachi, en fait, parle d'un terme qui est mentionné dans le livre, puisqu'il appelle à un moment les apatistes, ils appellent les apatistes une armée de rêveurs. Moi, j'ai trouvé ça assez interpellant. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, mais pourquoi, d'où ça vient, cette histoire ?
Ils sont capables de rêver certaines choses, mais de les appliquer, quoi, de les rendre réels. C'est un peu en référence à différentes initiatives, quoi. Mais pour revenir, par exemple, sur le festival de danse qui avait lieu, je sais plus, c'était 2019, je crois, si je me trompe pas. ils ont construit un auditorium immense. Ils ont rêvé finalement de faire un peu un festival de danse là, au milieu de leur territoire. Bon, même là, pour le coup, c'est pas loin d'une route. Et ils l'ont fait. Accueillir je sais plus combien de personnes pendant 4-5 jours, festival de films, festival de danse. Et donc là, quand Armed Rêveur, il y a un peu ce côté-là de rêver certaines choses et d'arriver à les rendre réelles.
Voilà, un dernier extrait donc de Patxi Beltzaiz, un des deux auteurs de ce livre De l'autre côté du Charco avec Vero Traba. Merci encore et viva Zapata. Alors, qui était à la lecture de ces différents extraits qu'on a écoutés aujourd'hui ? Eh bien, Odile von Steenwinckel, qu'on remercie encore. Et notre invitée d'aujourd'hui, eh bien, Stéphanie Bodin. Merci encore, Stéphanie.
Avec grand plaisir, Amérique.
Alors, on voulait rajouter quoi ? Plus d'infos, vous les trouverez sur notre site www.djiboutik.be. On va se quitter. Merci Hubert en tout cas.
Alors, une petite chose à dire encore. Je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast, lors de la première diffusion ou sur le site, mais Sylvana Estrada, si vous avez apprécié cette chanteuse, cette très jeune chanteuse, elle a 24 ans, elle sera à l'Ancienne Belgique le 8 juillet.
Parfait. Donc,
si vous pouvez aller voir, si vous voulez aller voir ce concert-là,
Hubert y sera.
Sans doute, c'est très probable.
On y va aussi, Amérique ?
Allez, c'est parti. On va se quitter donc avec une chanson dont on a déjà entendu plusieurs petits bouts, mais pas entièrement. Donc je pense que c'était quand même nécessaire qu'on l'écoute complètement et que je cite son auteur. Il s'agit de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Chichú. ¡Viva el huapango!
Arras de la noche rala, casanga del triste día, mientras muy cerca de Talva, 40 gentes morían, venían de ver a la Virgen, según el radio anunció, y como para reírse, la muerte los persinó. Sanates, soya, sanates, que hambre de la sin razón, que amargura del paisaje, que puñalada del sol. Platican quienes oyeron, dicen los que saben leer, que se chorrearon los frenos, no fue culpa del chofer. La gritadera de gente y empezaron a rodar, 60 metros de muerte, ¿qué vida podía quedar? Denme un topito con coca, ¿qué más remedio, pariente? Cualquier pena se hace poca, revolviéndole aguardiente. Regresaba del potrero con el sol reverberando, cuando vi de los sombreros y oí los ayes y el llanto, como sombra, como humo, me arrimé a ver qué pasaba. eran los cuatro difuntos que la muerte nos mandaba. Más en Tajara si caso, el apache, la sandía. Dama diablo sol borracho, con la muerte lotería. Cayó la noche pesada, negra junta de una vez, como cobija de lana, como camisa al revés. Estoy perdiendo la vida, repegado a la pared, viendo a mi mujer tendida y sorbiéndome un café. Unos rezan, otros hablan, y sobre una mesa tosca, ante la Virgen de Talpa, arden cuatro veladores.